Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il est l'auteur d'un livre choc sur les dérives de la lutte anti-drogue en France. Les autorités, dit-il, ont implicitement favorisé l'importation massive de drogue au motif de lutter contre les trafics. Il s'agit du journaliste Emmanuel Fansten, il sera avec nous dans quelques minutes. 18h30, les polémiques du jour avec un débat un peu particulier ce soir dans le cadre de notre semaine des jeunes et de la presse. Nos débatteurs sont tous lycéens, ils ont tous moins de 17 ans, la crise du Covid, les vaccins ou encore le monde d'après, on les entendra. 19h15, la carte blanche offerte ce soir au député du Modem, David Corsero. Il faut abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans, nous dira-t-il. Et puis 19h20, le grand débat du Club des Idées. Comment lutter contre les fake news qui menacent, on le verra, nos démocraties. N'hésitez pas à poser vos questions, le standard est ouvert. On y répondra évidemment comme chaque soir avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord le journal avec Christophe Lamarre. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
La vaccination est une priorité nationale. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination.
Matin, midi et soir, la prescription d'Emmanuel Macron pour venir à bout du Covid et contenir la progression de l'épidémie.
42 départements ont dépassé le seuil d'alerte maximale ce soir, presque deux fois plus qu'il y a 15 jours. Le chef de l'État veut par ailleurs ouvrir la vaccination, dit-il, aux plus de 70 ans et aux enseignants.
Vaccinés partout, tout le temps, il y a les vaccinodromes, il y a l'armée et les pompiers appelés en renfort. Est-ce qu'il y aura les doses? Comment ça va-t-il se passer? Explication dès le début de ce journal.
À Toulouse, ce sera test salivaire pour pratiquement tous les étudiants. Les universités mettent en place une gigantesque opération de dépistage sur chaque campus.
Le procès d'IKEA France accusé d'avoir espionné ses salariés. Le tribunal s'est plongé dans le fonctionnement d'un magasin qui pratiquait le flicage à tous les étages.
Record d'enchères pour une œuvre de Bansky qui est aussi un hommage aux soignants. Sa toile baptisée Voilà qui a changé la donne a frôlé tout de même les 20 millions d'euros. L'argent sera reversé à la Croix-Rouge britannique.
Et la Bourse de Paris termine en baisse de 0,39% à 5 945 points.
La météo, Anissa Dadi, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Le beau temps se poursuit.
Oui, bonne nouvelle, effectivement. Le soleil sera très généreux une fois de plus demain sur tout le pays. Quelques petits nuages arrivent porteurs de petites gouttes sur la Bretagne. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On ne sait pas ce que retiendra l'histoire, mais on notera que ce déplacement d'Emmanuel Macron a été l'occasion d'un appel presque solennel. Les prochaines vacances de Pâques seront placées sous le signe de la vaccination.
Oui, partout, tout le temps, matin, midi et soir, a donc dit Emmanuel Macron. Le président était en visite dans un centre de vaccination de Valenciennes.
Le cœur de la bataille sur les prochaines semaines et les prochains mois, ce sera la vaccination. Matin, midi et soir, je peux vous dire, je serai mobilisé, le gouvernement sera mobilisé et l'ensemble, je le sais, des professionnels soignants partout en France sera mobilisé dans cette bataille. La priorité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est vacciner les plus vulnérables, les plus âgés et les gens qui ont plus de 55 ans avec un facteur de risque. À partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver. Et on sera à ce moment-là dans une situation qui nous permettra en effet d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposés, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie.
Emmanuel Macron avec Jean-Rémy Baudeau et ce soir, les syndicats d'enseignants se déclarent satisfaits, mais ils préviennent, il faudra que ça aille vite et que ça s'inscrive dans la durée. Le président qui ouvre par ailleurs la vaccination aux plus de 70 ans. Et là, ça va très vite, puisque ce sera à partir de samedi.
Oui, accélérer la vaccination, cela suppose évidemment des moyens humains et des doses. Victor Delande, la campagne change donc de dimension.
Oui, avec l'ouverture aux plus de 70 ans, sans comorbidité de la vaccination à partir de samedi, ce sont 3,5 millions de Français en plus qui sont ciblés. Alors concrètement, comment ça va se passer? Il y aura un numéro de téléphone national dédié aux rendez-vous vaccinaux. Si vous avez plus de 70 ans, vous pourrez réserver une place dans un centre de vaccination pour vous immuniser avec le vaccin Pfizer ou Moderna. Vous pourrez également vous rapprocher de votre médecin généraliste ou de votre pharmacien. Il vous injectera, lui, le sérum AstraZeneca. Pourquoi ce choix du gouvernement? En fait, selon de nombreuses remontées de terrain, les autorités sanitaires se sont aperçues ces derniers jours qu'il y avait de plus en plus de créneaux disponibles. Et donc, pour ne pas perdre de doses, il faut élargir la cible. Les Français de plus de 75 ans restent toutefois prioritaires. Pour le moment, une personne sur deux âgée de plus de 75 ans a déjà reçu au moins une dose. Mais pour toucher les 50% restants, l'assurance maladie va donc lancer une campagne d'appel téléphonique pour les inciter à se faire vacciner.
Bien, question Victor évidemment essentielle, est-ce qu'il y aura assez de doses?
Écoutez, c'est aussi pour cette raison que le gouvernement veut accélérer, car il sait que pour le seul mois d'avril, la France va recevoir près de 13 millions de doses, soit autant qu'en février et mars réunis. Il faudra aussi plus de personnel pour vacciner plus vite. Le gouvernement compte notamment sur l'armée et les pompiers, notamment dans les vaccinodromes, pour vacciner plus de Français.
Merci Victor Delande. Le vaccin pour tout le monde est vite, mais en attendant, eh bien, du côté des médecins et des spécialistes, on s'inquiète de la dégradation de la situation sanitaire.
42 départements sont passés au-dessus du seuil d'alerte. La barre des 4500 malades en réanimation est franchie. On n'est plus très loin dans ces services de soins intensifs du pic de la deuxième vague de l'automne. De quoi relancer les doutes sur les effets de ce confinement Canada Dry. Si les chiffres ne s'inversent pas, il faudra appuyer sur le bouton stop et passer au reconfinement réel, dit le président de la Fédération hospitalière de France.
Il faut également dépister les porteurs du virus. Malgré eux, à Toulouse, l'université décide ainsi de tester les étudiants à grande échelle.
Oui, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de revenir progressivement sur les bancs de la faculté, d'où ces tests salivaires proposés tous les jours sur chaque campus. On ne parle pas d'une opération ponctuelle, mais bien de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Il n'y a rien d'obligatoire. Benjamin Péter, les étudiants qui le souhaitent pourront venir quand ils le veulent.
Oui, il suffit de venir un matin, d'avoir sur soi sa carte d'étudiant, sa carte vitale, et on passe dans un box pour faire le prélèvement.
Il va falloir que vous vous toussiez dans votre masque, vous faites remonter de la salive, et ensuite vous allez déposer votre salive dans le tube.
En tout, Lucas, qui est en troisième année de droit, y aura passé 10 minutes juste avant d'aller en cours. Il recevra les résultats dans les 24 heures. C'est la deuxième fois qu'il se fait tester en quelques jours.
J'ai vu quelques amis, donc on s'est fait tester avant et du coup on s'est testé après pour voir s'il n'y a pas de problème. J'aimerais bien essayer d'y aller quand même une fois toutes les semaines ou semaine et demie quand même. Surtout que j'essaye d'aller voir mes parents au moins une fois ou deux fois par mois. J'essaie de faire attention.
Venir se faire tester facilement au moins une fois par semaine, c'est justement ce que souhaite Philippe Rimbaud, le président de l'Université fédérale de Toulouse.
L'idée c'était que pour faciliter le retour des étudiants sur les campus, il fallait avoir la capacité à tester éventuellement massivement. Il nous semblait plus évident de le faire avec les tests salivaires qui sont moins intrusifs. Il y a moins d'hésitation à aller se faire tester et on peut peut-être y aller plus facilement au premier doute.
Et en tout, sur les trois sites des universités, jusqu'à 600 tests par jour peuvent être réalisés actuellement. Des capacités qui pourraient être augmentées en fonction des besoins.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Alors en Allemagne, l'épidémie repart également de plus belle, mais les autorités ont tranché. Il n'y aura pas de couvre-feu.
Le gouvernement d'Angela Merkel maintient les restrictions existantes. Principale décision, le prolongement du week-end de Pâques et la demande faite aux Allemands de rester chez eux entre le 2 et le 5 avril et de ne pas se retrouver à plus de 5.
L'Europe qui annonce par ailleurs un durcissement du contrôle des exportations des vaccins AstraZeneca en dehors de l'Union. La Commission devrait en adopter le principe demain.
AstraZeneca qui a décidément beaucoup de soucis, pas seulement avec les Européens, mais aussi avec les États-Unis qui retardent son autorisation. L'Agence fédérale américaine met en doute l'efficacité de son sérum, faute de données plus récentes sur les essais cliniques pratiqués sur des patients américains. Le laboratoire promet de mettre à jour ces données.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec Christophe Lamarre. On parle donc de ce deuxième jour du procès d'IKEA France, retentissant devant le tribunal correctionnel de Versailles. Et les magistrats se sont donc intéressés aujourd'hui de près au mode de fonctionnement d'un magasin.
Et c'est le plus grand magasin de France. Il est situé dans le Val-d'Oise à Franconville. À la barre, depuis ce matin, ont défilé un policier, une directrice adjointe. Point commun entre ces prévenus, Marion Dubreuil, il nie toute participation au système.
Oui, l'ex-directrice du site de Franconville redit avec force à la barre qu'elle n'était pas au courant que certains salariés étaient passés au crible de fichiers de police. En 2010, le climat social est explosif sur le site du Val-d'Oise, à tel point que Claire Herry se sent menacée par un délégué syndical qui se vante d'avoir fait de la prison. Le directeur de la gestion du risque ne s'en cache pas. Il fait alors une demande d'antécédent judiciaire auprès d'une entreprise de sécurité privée. Pour rassurer Claire Herry, explique-t-il, j'ai pu lui dire que ce n'était pas un criminel. En 2010, le nom d'Adèle Amara, déléguée force ouvrière, est passé à plusieurs reprises au système de traitement des infractions constatées, sans lien avec des procédures judiciaires en cours. C'est le cas pour une dizaine d'autres salariés d'IKEA. Derrière ces recherches, un gardien de la paix du commissariat d'Hermont, qui est en lien direct avec le directeur sécurité du site de Franconville. Il affirme à la barre qu'il travaillait à l'époque sur une enquête de vol aggravé au service après-vente du magasin IKEA. Pourtant, aucun des salariés passés au fichier ne travaillait au SAV, lui fait remarquer un avocat de partie civile. Le policier reste sans voix.
Marion Dubreuil au tribunal correctionnel de Versailles. La cour de cassation confirme le non-lieu en faveur du gendarme dont le tir de grenade avait provoqué la mort de Rémi Fraisse lors d'un affrontement sur le chantier du barrage de Sivens en 2014. Et puis c'est une œuvre en noir et blanc sur toile. Elle rend hommage aux soignants britanniques et elle est signée de Banksy. Elle vient de se vendre à un prix record.
Oui, record historique pour l'artiste. Cette toile intitulée Game Changer, voilà qui a changé la donne en français dans le texte, a été adjugée près de 20 millions d'euros. Cette vente aux enchères organisée à Londres chez Christie's va permettre de venir en aide aux soignants, Diane Chenouda.
Oui, c'est une vente de charité dont tous les bénéfices iront au service de santé britannique. La toile est un hommage aux soignants. On voit un petit garçon qui délaisse ses jouets, des super-héros comme Batman, et il joue avec une poupée infirmière, transformée en super-héroïne avec le signe de la Croix-Rouge. Cette toile, Banksy l'a d'abord installée dans un hôpital de Southampton près de Londres en mai dernier, en pleine vague du Covid. Puis il a donc décidé de la vendre au profit des soignants. Les enchères ont flambé, la toile a été adjugée près de 20 millions d'euros.
The Game Changer by Banksy at 14,400,000 is sold. Well done. Congratulations.
Un moment historique, a souligné le commissaire-priseur.
Thank you so much. What a...
Merci beaucoup pour cet incroyable symbole de ce que nous avons tous traversé et l'incroyable soutien des services de santé britanniques depuis plusieurs mois maintenant et sans doute des mois à venir.
Cette vente pour les soignants explique en partie son succès, mais ce record pour un Banksy confirme aussi la cote de l'artiste sur le marché de l'art qui a explosé depuis 5-6 ans, notamment ces deux dernières années. Étienne Salon, spécialiste de l'art contemporain chez Christie's.
C'est un artiste qui est extrêmement demandé, extrêmement rare aussi. Il y a peu d'œuvres de l'artiste disponibles en vente. En particulier, comme cette œuvre-là, des œuvres qui sont réalisées en fait à la main par l'artiste sur la toile et il en produit peu, très peu. Elles sont très recherchées par les collectionneurs avec une demande mondiale qui est très forte.
Et ce qui est fou, eh bien, c'est qu'on ne sait toujours pas qui se cache derrière Banksy.
Ouais, d'accord.
Mais eh bien, c'est moi, ma chère Diane.
Derrière son masque,
c'est Christophe.
Bravo, alors. Vraiment.
C'est le côté Daft Punk de Banksy.
Oui, bah ouais, absolument.
Artiste mystérieux, artiste formidable. Merci, Diane. C'était le journal de Christophe Lamarre. La météo avec Anissa Dadi qui nous annonce le retour de quelques petits nuages. Et si c'était vous, tiens, Banksy?
Ah, peut-être. Hein? Surtout que j'étais très douée en dessin.
Eh oui, je sais ça. Alors, le temps, ma chère
Anissa. Alors, les nuages. Les nuages, vous le disiez, mais je vous rassure, ce sont quelques petits nuages, Julien, qui vont toucher la pointe bretonne demain avec une légère perturbation qui va apporter des petites gouttes sur le nord de la Bretagne demain après-midi. Partout ailleurs, la matinée est ensoleillée avec attention des brouillards matinaux sur le Val de Saône, la Bourgogne, le Pays Basque. Une fois que ces brouillards seront dissipés, c'est le soleil qui va dominer sur tout le pays, sauf cette petite pointe bretonne qui sera effectivement sous la grisaille. Les températures, elles sont toujours fraîches demain matin, avec moins 4 à Montluçon, moins 3 à Auxerre, moins 2 à Aurillac, moins 1 à Clermont-Ferrand et Belfort, 1 degré pour Lyon et Nantes, 3 à Paris et Carcassonne et 7 à Nice. Et puis dans l'après-midi, vous allez vraiment sentir un redoux avec 11 degrés à Boulogne-sur-Mer, 12 à Cherbourg, 15 à Nice et Caen, 17 degrés pour Paris et Besançon, 18 à Marseille et Lyon et 20 degrés la maximale pour Nîmes et Avignon.
Alors la même température à Nice et à Caen.
Oui, c'est rare. Hein,
c'est la diagonale de la météo, on
exactement
pourrait dire ça. Merci Anissa, vous revenez nous voir tout à l'heure à 18h30. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h16, c'est une enquête choc qu'il publie aux éditions Robert Laffont sur les dérives de la lutte contre le trafic de drogue chez nous en France. Bonsoir Emmanuel Fansten.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous travaillez au service police-justice du journal Libération et vous publiez donc cet ouvrage « Trafic d'État ». Enquête sur les dérives de la lutte anti-drogue aux éditions Robert Laffont après un premier volet qui s'appelait L'Infiltré. Alors, cette enquête revient en fait sur l'affaire dont on avait beaucoup entendu parler, de ce gros trafiquant de drogue, on va l'évoquer, qui était en fait protégé par, dit-on, le patron de l'Office de lutte contre les stupes. Le point de départ de tout cela, c'est la saisie en octobre 2015 de 7 tonnes de cannabis, boulevard Excelmans, ça se trouve à Paris, c'est du jamais vu, si bien que François Hollande, alors président de la République, se rend sur place, et vous vous rendez compte que le suspect interpellé est en réalité un indique.
Tout à fait, je me rends compte, en réalité, les juges vont se rendre compte assez rapidement, le parquet de Paris, que le propriétaire de cette marchandise saisie en plein Paris, c'est un record, 7 tonnes intramuros, c'est du jamais vu, appartient non seulement au plus gros, un des plus gros trafiquants français, mais aussi au principal informateur de l'Office des stupes et de son patron.
On peut donner son nom ou pas ?
Bien sûr, Sofiane Ambly.
Sofiane Ambly, c'est l'un des plus gros trafiquants à l'époque, de renommée
internationale,
bien
sûr,
recruté en Espagne par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Alors là, il va falloir nous expliquer comment un gros trafiquant de ce calibre-là se retrouve indique des services de lutte antidrogue français.
Alors justement, c'est une des singularités de cette affaire, puisque c'est le patron des STUP, l'ancien patron de l'Octrice, François Thierry, qui est allé lui-même recruter en Espagne cet informateur dans le sud de l'Espagne. Sofiane Ambly est à l'époque interpellé, incarcéré en Espagne. Et le patron de l'office des STUP va lui proposer une sorte de deal.
Donc il va le voir en prison ?
Il va le voir directement lui-même en prison. Ils vont avoir plusieurs échanges et ils vont passer un deal. C'est-à-dire que le patron des STUP va s'engager à favoriser une remise de peine pour cet informateur qui va être extradé, qui va passer quelques années de prison en France, mais qui va sortir beaucoup plus tôt que prévu, grâce aux informations extrêmement précieuses qu'il va transmettre à l'office des STUP.
Et avec l'idée qu'en sortant, il pourrait continuer son trafic, mais il resterait un indicateur des services antidrogue.
Alors c'est ça, le fait qu'il soit trafiquant précisément est au cœur de la stratégie, c'est en réalité une stratégie secrète qui va être mise en place à l'époque par l'Octrice, qui va s'appuyer sur, sur cet informateur et sur d'autres, mais principalement sur cet informateur.
C'est courant ce type de méthode ?
Alors le recours aux informateurs, évidemment c'est très courant dans les services notamment anti-stup qui ont recours énormément à des indiques, à des tontons, on dit dans le secteur. Ce qui est beaucoup moins fréquent, c'est de faire jouer un rôle actif à ces informateurs. Oui. Et c'est ce qui va se passer avec Sofiane Ambly.
Alors, c'est le cœur de votre livre, puisque vous expliquez que des policiers laissent par conséquent passer de la drogue pour remonter les filières. C'est une pratique qu'on peut estimer courante. On ferme les yeux sur certains commerces illicites et en échange, on a des perquisitions, on a des informations privilégiées de la part de ces indiques. Mais vous, vous parlez dans votre livre de trafic d'État. Pourquoi trafic d'État ?
Alors déjà, il y a une technique, il faut rappeler qu'il y a une technique légale qui s'appelle les livraisons surveillées et qui permettent à des services enquêteurs, sous le contrôle d'un magistrat, de laisser passer de la drogue afin de retarder les interpellations et de suivre le cheminement de cette marchandise.
Oui.
Le problème avec l'office des stupes et cette stratégie secrète qui a été mise en place à l'époque, c'est que les policiers se sont affranchis totalement des règles en cours à l'époque et qui n'ont pas prévenu les magistrats et qu'ils ont fait ces livraisons surveillées sans enquête préalable.
Vous allez même plus loin, Emmanuel Fonstein, dans votre livre qui s'appelle donc Trafic d'État. Vous dites que les policiers laissaient passer la drogue, mais avaient un rôle de soutien logistique avec les passeurs et les trafiquants de drogue. Ils étaient actifs en réalité.
Tout à fait. En enquêtant, j'ai découvert que cette fameuse saisie d'Excelmans d'octobre 2015 était en réalité la partie visible de l'iceberg d'un système en réalité, puisque ça faisait plus de 6 ans que Sofiane Ambly était au cœur de cette stratégie qui consistait effectivement à suivre la drogue avec, en effet, le soutien logistique en Espagne des policiers. J'ai été contacté par un informateur, c'est comme ça que débute le livre, qui s'appelle Hubert Avoine, et qui racontait lui-même avoir été sollicité par les policiers français.
Qui est depuis décédé, qui est entre-temps devenu votre ami, je crois.
Bah alors, en tout cas, disons qu'on a été proches, on a enquêté ensemble, et effectivement...
Relation particulière s'est nouée, en tout cas.
Alors, dans le livre.
Dans votre livre, vous mettez en cause François Thierry, qui était le patron de l'Office central des stupes à l'époque, et vous laissez entendre que c'est lui qui aurait pensé ces opérations et recruté, donc on l'a évoqué, Sofiane Ambly. Était-il seul aux commandes ou y avait-il... une hiérarchie au-dessus, on imagine peut-être au ministère de l'Intérieur, qui était au courant, et pourquoi pas le ministre de l'Intérieur lui-même, qui était au courant de ce pacte passé entre le chef de la lutte antidrogue et le trafiquant.
Alors, je ne décris pas dans le livre un flic ripou que serait François Thierry qui aurait agi dans son coin. Au contraire, c'est bien d'un système dont il s'agit. C'est d'ailleurs pour répondre à votre question. C'est pour ça que je parle de trafic d'État. C'est bien sûr... escalité de commissaire des stupes. Pour répondre à votre question, il y avait évidemment des policiers au-dessus, dans sa hiérarchie, qui étaient informés.
Quand vous dites au-dessus, c'est à quel niveau ?
Des CPJ, ce qu'on appelle la direction centrale de la police judiciaire. Cette stratégie Myrmidon était connue de tous les cadres de la police. J'ai rencontré, j'en parle dans le livre, c'est un des chapitres, Bernard Petit, qui était l'ancien chef de François Thierry à la DCPJ, et qui lui-même a théorisé cette stratégie qui a été sans doute en partie dévoyée par la suite.
Est-ce que dans cette affaire, François Thierry, l'ancien patron de l'Office central des stupes, donc à l'époque, touchait de l'argent au passage ?
Alors, il n'est pas du tout avéré, je ne décris à aucun moment qu'il y a eu de l'enrichissement personnel. Oui. En revanche, il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes à ce stade. François Thierry est aujourd'hui mis en examen pour complicité de trafic international de stupéfiants, pour association de malfaiteurs et pour complicité de faux en écriture publique. Il risque des procès aux assises. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un enrichissement personnel pour sortir du cadre légal.
C'est une affaire intéressante parce qu'on est là dans une pratique connue de tous, c'est ce que vous venez de rappeler à l'instant.
De tous, en tout cas d'une partie de la hiérarchie policière.
De la hiérarchie, mais une partie importante quand même. Une partie importante de la hiérarchie policière. Et en même temps, quand on se fait prendre la main dans le pot de confiture, on a une instruction judiciaire et on risque des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années. On est dans une espèce de schizophrénie là, ou de non-dit dans le fonctionnement de notre police et de la lutte antidrogue.
On est en tout cas dans une zone grise. Ouais. Bernard Petit, qui est à nouveau l'ancien patron de François Thiéry, m'expliquait que la lutte contre les stupes a toujours été une sorte de laboratoire au sein de la police judiciaire. On pouvait comme ça tenter certaines méthodes au risque, c'est le cas ici, de franchir la ligne.
Donc on ferme les yeux, tant qu'on ne se fait pas avoir, alors, ça peut continuer.
Ça peut être la règle du pas vu, pas pris, c'est ce qui s'est passé là, puisque cette stratégie a volé en éclats au moment de cette fameuse saisie d'octobre 2015. Mais pendant 6 ans, il y a des dizaines de tonnes qui ont été importées en France.
Des dizaines de tonnes, tout à fait,
avec la bienveillance de l'octrice. Tout ça est documenté, j'en parle longuement dans le livre. Oui. Et d'ailleurs, François Thiéry lui-même assume publiquement d'avoir perdu des tonnes, parce qu'il considérait que finalement, le produit importe peu si ça permet de démanteler des réseaux derrière.
Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, cet informateur trafiquant de drogue de son état, Sofiane Ambly. Pendant toutes ces années où il a collaboré avec les services de lutte antidrogue français, il n'a jamais été inquiété par ses fournisseurs, par ses clients, il n'a jamais été identifié comme un indice.
C'est tout le paradoxe du système, si vous voulez. C'est que grâce à ses bienfaiteurs au niveau policier, Sofiane Ambly avait les frontières ouvertes d'une certaine manière et pouvait faire son business tranquillement. Vous savez, dans ce milieu-là, à partir du moment où le business fonctionne, on ne pose pas beaucoup de questions.
Mais les grands trafiquants n'aiment pas trop ceux qui parlent à la police aussi, on peut bien imaginer ça. Mais vu de l'extérieur, c'est ce qu'on se dit.
Bien sûr, mais je crois qu'il y a plus d'informateurs que ce qu'on imagine, y compris parmi certains grands trafiquants.
Est-ce que vous avez la conviction, Emmanuel Fanstein, aujourd'hui, que ces méthodes ont toujours cours ?
Alors, ces méthodes précises, je ne pense pas. Cette stratégie Myrmidon, aujourd'hui, n'existe plus. En revanche, j'explique dans le livre que c'est lié à une certaine politique du chiffre. Puisque l'avantage de cette stratégie, c'était aussi de permettre aux ministres de l'Intérieur successifs, il y en a eu beaucoup, de pouvoir venir poser aux côtés de saisies mirifiques. On sait que les saisies de drogue peuvent constituer une arme de communication politique très importante. Ouais. Et effectivement, pendant des années, c'était un peu la suite des années Sarkozy, la politique du chiffre a entretenu ces méthodes-là.
Je vais vous poser une question qui n'est pas très politiquement correcte, mais de votre point de vue, quelle est la balance bénéfice de cette affaire ? Est-ce qu'on a saisi plus de tonnes de drogue qu'on l'aurait fait si on n'avait pas eu ce lien particulier avec ce trafiquant-là ?
Peut-être, mais le problème, c'est que justement, le tonnage, comme on dit, ou les quantités saisies ne sont pas nécessairement le bon indicateur d'une politique censée et réussie de lutte contre le trafic. On peut considérer, par exemple, que le nombre de réseaux démantelés a peut-être plus de sens que le nombre de tonnes saisies. Donc je crois, en l'occurrence, que le bénéfice est bien moindre que les avantages dans cette affaire.
Vous racontez une histoire, alors il y a plein d'anecdotes dans le livre, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller le découvrir, à l'acheter en librairie, mais il y a une anecdote qui m'a beaucoup frappé, François Thiéry, donc patron de l'Office central des stupes à l'époque, qui se retrouve au milieu d'une opération de police avec des ballots de stupéfiants, il est sur une plage, intervient la Guardia Civile et il se retrouve un peu pris la main dans le sac comme s'il était trafiquant. Comment se retrouve-t-il dans cette situation-là ?
C'est intéressant que vous parliez de cette affaire parce que c'est précisément la toute première opération Myrmidon. Ça se passe début 2010 et François Thiéry n'est même pas encore à la tête de l'Office des stupes, il le sera quelques mois plus tard. Il est à l'époque à la tête du SIAT, qui est le service interministériel d'assistance technique, qui est un des services les plus secrets de la police judiciaire, qui gère les infiltrés. Et effectivement, l'opération avait été menée en coordination avec un service espagnol, mais pas la Guardia Civile, qui n'avait pas été prévenue, qui est arrivée sur la scène, en l'occurrence sur la plage où venaient d'être déchargés les ballots, et ils sont tombés sur François Thiéry comme s'il était un vulgaire trafiquant. Ouais. Alors, ils l'ont interpellé brièvement, puisque le problème a été réglé, mais ça a fait quelques vagues diplomatiques.
Et comment il a réussi à faire valoir le fait qu'il n'était pas en train de trafiquer, mais qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, de son métier ?
Ça, après, il y a eu des petites discussions, on va dire, informelles avec la hiérarchie sur place, et il a réussi à se sortir de ce mauvais pas. Mais en tout cas, l'interpellation même furtive d'un commissaire français sur une plage espagnole fait mauvais genre.
Bien, il y aura un troisième tome ?
On verra. Écoutez,
en tout cas, vous avez de quoi raconter, visiblement. Je vous invite à le lire, vous qui nous écoutez, c'est absolument passionnant. Ça se lit vraiment comme un polar, comme presque une histoire d'espionnage. On plonge dans les méandres de la lutte antidrogue avec ses succès et puis aussi, vous l'avez évoqué, ses limites. Emmanuel Fanstein, Trafic d'État, enquête sur les dérives de la lutte antidrogue aux éditions Robert Laffont. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Christophe Lamarre à 18h30 pour le rappel des titres.
La vaccination ouverte à tous les plus de 70 ans dès samedi, annonce d'Emmanuel Macron. Macron lors d'un déplacement dans un centre de vaccination à Valenciennes. Le chef de l'État annonce également la possibilité pour les enseignants d'accéder à la vaccination dès la mi- ou la fin avril. L'Allemagne dit non au couvre-feu mais prolonge les restrictions en cours jusqu'au 18 avril. Elles seront même renforcées pour le week-end de Pâques. Pendant 5 jours, les Allemands devront rester chez eux. Rester chez soi en permanence n'est pas sans conséquence pour le moral. Il y a 2 fois plus de dépression sévère chez les salariés depuis le premier confinement. Le taux de détresse psychologique explose, passant de 21 à 36% selon un baromètre de la santé mentale publié par l'Institut Opinionway. Les moins de 29 ans et les femmes sont les plus exposées. Et puis la Cour de cassation confirme le non-lieu en faveur du gendarme dont le tir de grenade avait provoqué la mort de Rémi Fraisse lors d'un affrontement sur le chantier du barrage de Sivens en 2014.
Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le journal. Un petit coup d'œil au temps avec Anissa Dadi qui est avec nous. La douceur printanière au programme de l'après-midi. Alors le matin il va faire un peu frais, mais l'après-midi, grand soleil, douceur, on en profite.
Bah vous avez tout dit, je peux m'en aller. Effectivement, demain matin, la fraîcheur matinale avec de nombreuses gelées. On aura moins 4 à 7 degrés. Les températures seront beaucoup plus douces demain après-midi avec 12 à 20 degrés. On aura 12 degrés à Saint-Brieuc, 13 à Rennes, 14 pour Biarritz, 15 à Nice et Caen, 16 degrés à Lille et Belfort, 17 à Paris, 18 à Marseille et Lyon, 19 pour Bordeaux et 20 à Nîmes, la maximale. Dans le ciel, toujours beaucoup de soleil, vous le disiez Julien. Le temps va légèrement se couvrir sur la Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et de très légères pluies. Attention demain matin dans le nord-est et le sud-ouest aux nombreux brouillards matinaux.
Merci Anissa. Pareil, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un nouveau point sur le temps.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, passé de 2 minutes, le débat des grandes voix du mardi. Spécial jeunesse ce soir dans le cadre de notre semaine des jeunes et de l'info. Alors ce soir, mes débatteurs ont tous moins de 18 ans. Bonsoir Maxime Migeret.
Bonjour.
Vous avez 16 ans, vous êtes élève en terminale au lycée international de Noisy-le-Grand. Bonsoir Jules Devoucou.
Bonsoir.
Vous êtes vous en terminale au lycée Jean-Pierre Vernant du côté de Sèvres. Merci de votre présence. Charlotte est également avec nous. Bonsoir. Vous avez 17 ans et vous êtes en terminale également. Et puis Davian est également avec nous, il a 17 ans, il est lycéen du côté de Saint-Nazaire en première bac pro commerce. Bonsoir Davian.
Bonsoir Julien, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors on va parler évidemment de l'actu avec vous, on a envie de vous entendre et de ces nouvelles restrictions sanitaires décidées par le gouvernement. On va faire comme avec les débatteurs habituels, on va passer en revue l'actualité du jour. C'est vrai que ces restrictions affectent beaucoup vous, les jeunes, et j'ai envie de vous entendre là-dessus. 16 départements sont donc aujourd'hui en partie confinés et d'autres pourrait bientôt être également concerné, avec pour l'instant une exception française. Les écoles ne sont pas fermées, comme l'a rappelé cet après-midi à l'Assemblée nationale le ministre Jean-Michel Blanquer.
Vous avez salué le fait que la France a ses écoles ouvertes. C'est aujourd'hui en effet une exception française par rapport à beaucoup de pays et nous devons en être fiers. Ces enfants qui sont à l'école en ce moment sont en train de gagner des jours de travail qui seraient autrement perdus comme tant d'enfants dans le monde. Des millions d'enfants sont déscolarisés dans le monde. C'est une catastrophe absolue, aux conséquences au moins aussi graves que le Covid-19 en tant que tel.
Voilà, qu'est-ce que vous lui répondez, Jules Devoucou, au ministre de l'Éducation nationale? Il a raison, vous profitez des cours en présentiel, comme on dit, alors qu'il y a beaucoup d'élèves qui en sont privés partout en Europe. C'est un bienfait, ça, quand même.
Bah c'est sûr que c'est une chance quand même de pouvoir accéder à nos cours, la plupart en présentiel, même si autour de cette semaine ou la semaine prochaine, ça devrait changer suite aux nouvelles mesures
qu'on prises. Une semaine sur deux pour les lycées, a priori.
C'est ça, mais après, tout ça reste encore un peu flou parce que en fin 2020, nous avions un système qui était indépendant de chaque lycée, malgré les déclarations de Jean-Michel Blanquer. Donc encore un peu de flou là-dessus, des lycées ont déjà reçu leur emploi du temps, d'autres sont encore en train de patienter.
Oui.
Mais c'est sûr que c'est une chance de pouvoir continuer à apprendre, de pouvoir rester au lycée, de pouvoir nourrir notre éducation en quelque
Bien.
Sorte.
Même question Charlotte, vous avez vous aussi 17 ans, vous êtes également en terminale. Une question peut-être plus large pour vous, comment est-ce que vous jugez l'action du gouvernement dans cette crise sanitaire? Elle est beaucoup critiquée, quel est votre point de vue?
Mon point de vue reste celui d'une lycéenne qui ne peut voir que les mesures qui s'appliquent à moi.
Ouais.
Donc je peux voir... je suis très contente de pouvoir avoir accès aux cours en présentiel.
Ouais.
On a vu ce que ça a donné, les cours l'année dernière, de mars jusqu'à la fin de l'année. Il y a beaucoup de lacunes dans les matières cette année par rapport à ce qui a été étudié pendant ce confinement. Après... Les conséquences restent
importantes pour vous.
Importantes.
Oui.
C'est Le respect des gestes barrières est important.
Ouais. Jules, vous êtes d'accord? Vous partagez ce qui vient d'être dit, encore une fois, avec votre vision de lycéen, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans la gestion de cette crise? Est-ce que vous avez l'impression d'être, comme on l'entend beaucoup, les jeunes sont sacrifiés, les jeunes sont oubliés? Est-ce que c'est votre cas aussi?
Je dirais qu'effectivement, il y a des priorités. Et que, la question, c'est est-ce qu'il y a un sacrifice à faire? Et je dirais que peut-être que cette question ne devrait même pas se poser. On doit essayer d'optimiser la situation pour qu'il n'y ait pas justement de sacrifice à faire et que toutes les classes sociales tous les âges puissent s'en sortir au mieux de cette crise. Pour revenir au point de l'école, je dirais qu'effectivement les lacunes sont énormes. Personnellement, je suis au conseil d'administration de mon lycée et on a des retours de vraiment, il y a eu des grosses lacunes qui ont été bien faites.
Donc quand le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, dit il faut maintenir les écoles ouvertes parce qu'il y a un enjeu social important, c'est exactement ce que vous dites, c'est ce que vous observez, c'est ça?
Oui.
Ouais. On va écouter Davian, 17 ans, qui est également avec nous. Vous êtes à Saint-Nazaire, première bac pro commerce d'Avian, je le disais tout à l'heure. Vous savez, il y a un débat d'Avian qu'on a beaucoup entendu sur le choc des générations, un affrontement entre les plus âgés et les plus jeunes. Est-ce que vous le partagez, ce choc de génération? Est-ce que vous dites, on est les sacrifiés, nous les jeunes, on nous a un peu oubliés dans cette crise?
Alors non, enfin, tout le monde est à la même échelle. C'est vrai qu'au début de la crise sanitaire, on a été légèrement, les étudiants, les jeunes, mis de côté par le gouvernement. On a vu que à partir de novembre, décembre, ça a commencé le gouvernement a pris conscience, puisqu'on l'a vu à travers la précarité étudiante des jeunes qui en allaient jusqu'au suicide de ne plus pouvoir avoir accès aux cours en présentiel.
Vous en avez des camarades autour de vous qui sont dans cet état de dépression que vous décrivez là?
Alors, autour de moi, des camarades, non. Par contre, j'ai de la famille. J'ai une cousine, par exemple, qui, elle, a lancé des signaux d'alerte en janvier, en février, comme quoi c'était très compliqué. Et puis, début mars, elle a eu un retour en présentiel. Elle s'est aussi fait aider par des psychologues, des médecins, tout
Tiens.
Ça.
Une question pour vous, Jules. Les mutuelles ont annoncé aujourd'hui le remboursement de 4 séances de psychologue pour les Français, notamment pour les jeunes. C'est tout nouveau, hein, ça vient de tomber ce matin. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens? Est-ce que vous, par exemple, à titre personnel, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'aller consulter, ou certains de vos camarades, est-ce que c'est quelque chose que vous ferez?
Alors, dans mon cas, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Oui. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, sans aller jusqu'au suicide, les lycéens ou les étudiants en général, tout simplement, ils sont malheureux.
Après, vous la sentez, vous, cette détresse autour de vous?
Oui, je la sens.
Il y a des copains, des camarades, des copines qui vous disent « moi, j'en peux plus » parce que
mais tous.
On vit dans une situation compliquée, parce que nos parents sont en télétravail, parce que... C'est ça que vous ressentez? C'est ça que vous vivez, vous?
Ah oui, c'est sûr. Tous. Aujourd'hui, on est tous bloqués à la maison. L'aspect social, surtout à notre âge, qui est l'âge où on découvre la vie, l'âge où on commence à sortir, où tout l'aspect social d'une vie se développe, tout ça, c'est oublié. Que ce soit du collège jusqu'aux études supérieures. Et notamment, de ce que j'ai pu observer, c'est surtout aussi dans le supérieur que là, c'est vraiment un problème de morale, il est réel, il commence à jouer des troubles sur les santé mentale.
Oui.
Après, au lycéen, on n'en est pas encore jusque-là, parce qu'on a des contacts toujours avec justement le présentiel, qui est vraiment une bonne chose, qu'on soit encore en mesure d'aller au lycée ou d'aller à l'école. Après, pour revenir au sujet des 4 heures de psychologue offertes...
Oui.
Bon,
elles ne sont pas offertes, elles sont remboursées.
Elles sont remboursées.
Bien, mais c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose, mais ça ne va pas faire changer grand-chose.
On marque une première pause, on se retrouve avec nos grandes voix spéciales jeunesse. Vous l'avez compris, on parlera vaccination et on parlera de l'après-Covid aussi. Quelles sont les attentes de la jeunesse? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41 avec la suite des grandes voix spéciales jeunesse ce soir dans le cadre de notre semaine des jeunes et de l'info. Alors je le disais tout à l'heure, mes débatteurs ont tous moins de 18 ans et on continue d'évoquer les sujets d'actualité, notamment cette crise du Covid avec eux. Jules, vous êtes en terminale au lycée Jean-Pierre Vernant, je le disais tout à l'heure, de Sèvres. On a reçu ici, il y a un jeune, il n'y a pas très longtemps, qui a 22 ans, qui s'appelle Maxime Yedi. Bédo, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui a poussé un coup de gueule contre les baby-boomers qui prennent des mesures, dit-il, pour se protéger eux-mêmes sans penser aux jeunes. Il en a fait un livre, ça s'appelle « Génération fracassée ». C'est une colère contre cette génération, dit-il, qui a bien profité. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'une certaine manière, comme on le lit beaucoup chez les jeunes, en colère contre les boomers ?
Alors non, je ne suis pas en colère contre les boomers. Je pense que déjà, ils ont vécu une vie différente de la nôtre d'un point de vue de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils avaient des technologies pas au même niveau que les nôtres, ou même des libertés et des valeurs qui n'étaient pas partagées. Et encore une fois, le monde était différent. Oui. Donc je n'irai pas jusqu'à les rendre coupables. Maintenant, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes sont malheureux. Mmh. C'est réel. C'est tout un aspect de notre vie qui a été retiré. Et après, les sacrifices, on en est conscient, on les prend. Mais après, l'interrogation, c'est jusqu'où ça va aller.
Maxime ?
Après, je n'ai pas lu son livre, donc oui. Je parle de ce que vous m'avez dit. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas le moment de fragmenter la société, de faire un combat entre générations. Ce n'est pas le moment. Nous sommes dans une situation de crise où, justement, il faut tous s'unir et essayer de faire des concessions, de faire certains sacrifices, mais mesurés, et qui sont optimisés.
Oui. Alors, on va continuer ce débat des grandes voix de la jeunesse. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à un autre sujet d'importance en ce moment, la vaccination. La stratégie française doit continuer à monter en puissance. Le gouvernement s'est converti au vaccinodrome et annonce aujourd'hui, par la voix d'Emmanuel Macron, l'ouverture des vaccins aux plus de 70 ans.
Le cœur de la bataille sur les prochaines semaines et les prochains mois, ce sera la vaccination. Matin, midi et soir, je peux vous dire, je serai mobilisé, le gouvernement sera mobilisé et l'ensemble, je le sais, des professionnels soignants partout en France sera mobilisé dans cette bataille.
Charlotte, je vous fais réagir, vous avez 17 ans vous aussi, également en terminale. Est-ce que le moment venu, vous ferez vous vacciner si on vous le propose ?
Oui, bien évidemment.
Pourquoi ?
Parce que c'est important pour moi de pouvoir... non seulement j'aimerais être vaccinée pour être protégée,
oui.
Mais c'est important pour moi de pouvoir protéger mes proches. J'habite près de mes grands-parents, j'aimerais pouvoir les protéger, j'aimerais pouvoir... C'est pas qu'une question d'individualité au niveau du vaccin, c'est aussi protéger le reste des gens qui peuvent pas forcément se vacciner.
Est-ce que ça vous arrive, vous, en ce moment, de faire quelques entorses aux règles sanitaires, d'aller voir les copains, de faire des dîners, d'oublier parfois les gestes barrières, parce que, voilà, on a envie aussi d'avoir un lien social avec ses amis. Est-ce que ça vous arrive, ça ?
Au maximum, j'essaye que non. C'est... Pour moi, c'est important de faire attention.
Bien. Vous aussi, Jules ? Ou ça vous arrive de fauter ?
Ah non, ça m'arrive de fauter. Je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation. Ça nous arrive de fauter,
non,
mais à un moment...
Je vous confirme, il n'y a pas que les jeunes qui fautent. Hein. Vous pouvez être...
Oui, non, je sais qu'il n'y a pas des seuls. Que les jeunes. On n'est pas les seuls, que ce soit toutes les générations. Hein. Parce que cet aspect social, mine de rien, même si on est confiné, on a quand même besoin. Et complètement coupé là-dessus, ça serait terrible pour le moral. Après, ouais. Ça serait peut-être aussi la façon de faire fonctionner le confinement.
Bien. Davian est toujours avec nous, 17 ans, lycéen également à Saint-Nazaire. Est-ce que vous, Davian, vous ferez vacciner le moment venu ? Même question ?
Oui, je me ferai vacciner. Je suis totalement pour. Aujourd'hui, ouais. on est en 2021. On doit avoir confiance en la médecine qui a évolué depuis de nombreuses années. Et puis, au-delà de me faire vacciner pour moi, c'est pour protéger mes proches, ma grand-mère par exemple qui a 89 ans, qui a du diabète. C'est difficile, ça fait presque un an que ces personnes-là, on essaye de les voir le moins possible.
Ouais.
Certes, des fois on faute pour aller les voir parce que c'est pas possible, même pour nous, pour notre santé mentale aussi.
Oui, alors c'est formidable parce qu'on a autour de la table et en studio ce soir que des jeunes qui sont plutôt pro-vaccination. Alors que, Davian, je continue avec vous, il y a une défiance très forte de la jeunesse envers les vaccins. Est-ce que vous avez des copains, des copines autour de vous qui n'y croient pas à cette histoire de vaccin ? Et qu'est-ce que vous leur dites, le cas échéant ?
Oui, même dans mon cercle familial, par exemple, ma sœur qui, elle, est contre le vaccin, parce que aussi certains médecins leur disent à ces gens-là, même aux personnes, faut pas le faire. Il y a un espèce de...
Il y a des médecins qui disent ça ? Vous êtes sûr ?
Ah oui.
Par exemple, un médecin a dit à ma sœur qu'il ne fallait pas faire le vaccin puisqu'on n'avait pas assez de recul pour le moment. Donc il y a un espèce de pour et contre, même dans la médecine.
Si les médecins s'y mettent sur le vaccin, on n'est pas sorti. Maxime, même question. Vous, sur la vaccination, quel est votre regard et votre point de vue?
Je dirais qu'effectivement, il faut se faire vacciner pour les raisons qui ont été évoquées plus tôt. Concernant les médecins, je dirais que... je pense qu'il faut plus faire confiance aux experts, aux scientifiques qui travaillent activement
dessus. Vous avez vu, les experts, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, ce n'est pas facile de les suivre.
Aux chercheurs qui sont réellement sur ce sujet, plutôt qu'à des médecins de campagne ou des médecins de ville qui, effectivement, même s'ils ont une certaine connaissance, ne sont plus vraiment, je dirais, dans le coup. Enfin, je pense qu'il faut encore plus aussi aux chercheurs.
J'espère qu'ils ne sont pas nombreux à nous écouter, parce que sinon, ils ne vont pas être contents de ce que vous venez de dire. On marque une pause, 18h47. On les adore, les médecins. On vous embrasse, où que vous soyez. 18h47, on se retrouve avec nos invités. Place à la jeunesse, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix spéciale jeunesse, dans le cadre de notre semaine, je vous le rappelle, des jeunes et de l'info. Alors, je voudrais maintenant vous entendre les uns et les autres sur vos attentes, vos espérances, aussi peut-être vos doutes. Et ce fameux monde d'après dont on avait, vous vous souvenez sans doute, tant parlé à la sortie du premier confinement et qui paraît aujourd'hui, c'est vrai, bien loin. Souvenez-vous ce que disait Emmanuel Macron le 13 avril dernier.
Le moment que nous vivons est un ébranlement. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi le premier.
Voilà, Maxime, 16 ans, est-ce que vous aussi, vous avez l'ambition de vous réinventer? Non, plus sérieusement, qu'est-ce que vous attendez, vous, du monde d'après? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez?
Je dirais qu'on devrait saisir l'opportunité de cette crise pour vraiment régler les problèmes qui se sont révélés avec cette crise du Covid. Donc, je pense notamment au manque d'investissement dans les infrastructures hospitalières, dans l'école. Donc, cette crise, elle a vraiment montré qu'il y avait des problèmes dans la France, dans notre société, dans notre politique. Et je pense qu'on doit vraiment saisir l'opportunité pour les régler.
Et entre les générations, pardon de revenir là-dessus, cette crise a aussi eu pour bénéfice d'apporter beaucoup de bienveillance dans un premier temps entre les uns et les autres, pendant que nous étions confinés, entre les voisins, entre les jeunes, entre les plus anciens. On faisait attention aux autres, comme ça n'était peut-être pas arrivé depuis longtemps. Et on a le sentiment que depuis cet été, on a un peu perdu ça. Est-ce que vous êtes d'accord?
Je dirais qu'effectivement, au début de la crise, vu que c'était tout nouveau, tout le monde était dans une sorte d'ambiance où il fallait s'entraider et qu'avec les confinements qui ont succédé, on a un peu perdu cet esprit et on est retourné dans une sorte d'esprit individualiste où tout le monde veut faire ce qu'il veut parce qu'il veut.
Charlotte, vous avez 17 ans, en terminale également, je le rappelle. Est-ce que vous... C'est important aussi, toujours en se projetant dans le monde d'après, comme on dit, c'est important d'avoir, de donner un sens à votre engagement, à votre vie étudiante, demain peut-être, au futur travail que vous aurez décidé de faire. On a le sentiment que la jeunesse a besoin de donner un sens à ce qu'elle fait. Est-ce que c'est votre cas?
Je pense que plus que donner un sens, on a envie de trouver une direction. On veut pouvoir se projeter plus loin que ce qu'on peut pour le moment, et on veut pouvoir, comme toutes les jeunesses, on a envie de changer le monde.
Ça dépend dans quel sens, hein. On peut le changer dans différentes manières, le monde. Vous, quel serait ce changement?
Je pense que ça commencerait... on a tous envie de changer le monde à de grandes échelles, mais je pense que ça commence chez soi, ça commence dans la rue, il y a beaucoup d'inégalités encore.
Oui.
Il y a beaucoup de problèmes du quotidien qui ne sont pas réglés et qui se sont révélés notamment avec la crise.
Oui.
Et je pense que c'est important justement de leur prêter attention et de s'en occuper et de commencer là.
Bien. Jules, même question. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, de ce monde d'après? Qu'est-ce que vous pourriez changer? Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer?
Moi, notamment, de ce dont j'ai été témoin, c'est que le confinement, s'il y a une nette différence entre ce qui s'est passé il y a un an et aujourd'hui, il est relatif au temps. C'est-à-dire que pendant le confinement, on avait tous le temps de se documenter, de profiter, profiter non pas socialement, mais profiter individuellement. C'est-à-dire qu'on pouvait vivre de nos passions sans aucun problème, on pouvait avoir des contacts avec nos voisins, vous l'avez mentionné, qui ont été un gros sujet pendant le confinement, et une grosse aide. Et je pense qu'un retour à la simplicité et une meilleure gestion de temps, serait vraiment ce qu'on pourrait gagner après ce monde, d'un point de vue individuel.
Alors là, vous savez, il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, ils se disent « Ah bah dis donc, celui-là, il veut bosser moins. » C'est ça ce que vous voulez dire dans la gestion du temps? Non, je vous taquine.
Non, c'est pas juste ça que je voulais dire.
Le temps long, j'ai compris, on vous suit. On va poser la même question à Davian, qui a 17 ans. Si vous aviez une baguette magique, vous, Davian, vous êtes en lycée à Saint-Nazaire, premier bac pro commerce, qu'est-ce que vous aimeriez changer et comment vous vous projetez, vous, dans le monde d'après?
Ben, le monde d'après, il reviendra... Pas maintenant, on le sait, faut se le mettre aussi en tête. Et puis, comme vous l'avez dit, je suis en bac pro commerce, donc aussi dans les commerces. J'ai l'occasion d'être en alternance dans une enseigne de bricolage et porter le masque tous les jours face aux clients. Même, enfin, quand on a un masque, on peut, enfin, c'est compliqué d'avoir de montrer notre sourire, même en cours, tout ça. Enfin. C'est assez compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas en sortir du jour au lendemain.
Vous avez peur, vous, de votre arrivée
malheureusement.
Vous avez peur, vous, de votre arrivée dans le monde du travail? Vous avez peur de ne pas trouver d'emploi, de ne pas trouver de poste, de ne pas trouver de débouché?
Non, ce n'est pas une peur, puisque quand on veut, on peut. Après, là, j'ai la chance
quand on
d'être
veut,
en alternance pendant 2 ans. Donc...
C'est intéressant, ça. Quand on veut, on peut.
Bah, moi, je... Enfin... Pour ma part, j'ai trouvé une alternance justement en plein temps de Covid, alors que je pensais ne jamais trouver, et j'ai réussi. Donc, c'est aussi, je pense, dans la mentalité, faut se dire que on va trouver.
Bien, un peu de positive attitude, ça fait du bien. Vous êtes d'accord, Maxime? Le mot de la fin, quand on veut, on peut. Ça sera ça le leitmotiv pour terminer l'émission.
Je dirais que non, parce qu'effectivement, la crise a créé des problèmes et ce n'est pas seulement parce que l'on veut que l'on peut. Les politiques doivent réagir. Ils doivent mettre en lumière ces problèmes et les résoudre en mettant des politiques publiques efficaces.
Bien, voilà, le message de la raison. Vous voulez faire de la politique plus tard ou pas? Oui.
Oui.
Ben, vous pourriez. Vous en avez les atouts en tout cas. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat des grandes voix un peu particulier dans le cadre de notre semaine des jeunes et de l'info dans Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Voilà, on se retrouve dans quelques secondes, 18h57. On reprend le cours habituel de votre Europe Soir avec le journal et puis le débat du Club des Idées. Comment lutter contre les fake news qui menacent nos démocraties? On en parlera avec nos invités et vos questions au standard. À tout de suite.